Retrouvez votre rendez-vous avec l'information, une édition spéciale Israël, présentée par Laura Sain.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en direct d'Israël, de Tel Aviv précisément, avec Robert Zbili. Bonjour Robert Zbili.
Bonjour.
Vous êtes président du KKL France et vous organisez ce voyage de presse ces trois prochains jours en Israël avec une quarantaine de journalistes et d'hommes politiques ici.
Exact, c'est bien. C'est le voyage journaliste, mais c'est pas. En fait, c'est la deuxième partie du voyage. On avait fait ce voyage au lendemain du 7 octobre et on était venu voir sur place ce qui se passait avec des journalistes pour ressentir un peu l'atmosphère. On était reparti complètement transformé parce qu'on avait vu ce pays se réveiller du jour au lendemain. Une cohésion inimaginable. Un peuple qui était complètement uni. Et un slogan qu'on avait noté à l'époque, c'était « Seul mais ensemble, et ensemble nous vaincrons ». Et c'était réellement ce qu'on sentait dans le pays. Où on allait, c'était comme ça, que ce soit Tel Aviv, que ce soit même dans le sud, c'était ça. Donc on a été, c'est eux qui nous ont fait du bien ce jour-là. Nous, on était angoissés de ce qui s'était passé, mais quand on a vu leur réaction, on a été rassurés. Et on a essayé de transmettre ce message en arrivant en France. On a essayé de faire comme eux, c'est-à-dire travailler tous ensemble. On a plus ou moins réussi, on espère avoir réussi. Et j'ai pensé à un moment donné qu'il fallait voir où on en était. Et ce voyage, c'est « et maintenant ». C'est plus tout à fait après le 7 octobre, c'est maintenant. Quelles sont les perspectives d'avenir? On avait rencontré à l'époque des sécuritaires, des gens de l'armée, des gens qui nous avaient expliqué la situation telle qu'elle était, qui avaient déjà envisagé des scénarios pour le futur. Je voudrais savoir si après deux mois et demi, presque trois mois de guerre, est-ce qu'ils ont toujours la même vision des choses ou est-ce que les choses ont évolué? Je voudrais savoir comment la classe politique israélienne a évolué, comment la population a évolué exactement aussi. Est-ce que on est revenu aux divisions d'avant le 6 octobre, enfin d'avant le 7 octobre, c'est-à-dire les divisions du 6 octobre, ou est-ce que la population est toujours aussi unie, toujours dans le même but? L'impression que j'ai, moi, vu de l'extérieur, c'est-à-dire vu de Paris, c'est que ce peuple reste merveilleux, que les gens se battent à Gaza d'une manière exceptionnelle, que la cohésion entre religieux, pas religieux, droite, gauche, etc., ça reste la même. Mais j'ai pas l'impression que sur le plan politique, ça soit la même chose. J'ai pas l'impression que tout le monde envisage l'avenir de la même manière. Et je sais pas si quelqu'un a un projet d'avenir, a une vision de l'avenir. S'il y a des gens qui ont la vision, j'aimerais bien l'entendre, entendre les différentes versions. Et c'est pour ça que j'espère que vous êtes là et que ces journalistes sont là et que pourront transmettre. Le premier voyage avait eu un effet extraordinaire, c'est-à-dire quand je regardais les plateaux de télévision derrière, je sentais qu'on avait fait quelque chose. Qu'on avait fait quelque chose parce qu'ils avaient, quand on les voyait sur BFM, CNews, Antenne 2, ceux qu'on avait emmenés avaient été marqués et racontaient leur histoire. Et ça a permis vraisemblablement une partie de... C'était une bataille sur la Hasbara. Et c'est important. Et il faut que ça continue. Je crois que la vision... On me disait ça va pas durer longtemps. Néanmoins, ça dure. Ça dure et sur le plan communautaire et sur le plan médiatique. C'est pas aussi dramatique sur le plan médiatique que ce qui a été envisagé. On a dit au bout de 10 jours, ça va s'arrêter, ça va devenir comme avant, etc. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai et sur le plan communautaire, c'est encore mieux. J'ai senti, moi, alors je peux en parler en tant que président du KKL, une volonté de la base communautaire, hein. Je parle de la base communautaire, exceptionnelle. Si mon thermomètre, c'est la collecte pour Israël, elle n'a jamais été à ce niveau. Même si on fait des campagnes, on n'en fait pas autant que ça. J'ai des donateurs qui n'avaient pas donné depuis 5 ans, depuis 10 ans que je vois arriver, et ce n'est pas des petites sommes.
Ça a été un électrochoc, en fait, c'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Exactement. Je crois que ça a été un électrochoc pour ici, mais ça a été aussi un électrochoc pour la communauté. Et vous parlez de Marseille, on a fait Toubichvat il y a quelques jours à Marseille. Là aussi, j'ai jamais réussi à remplir une salle à Marseille. C'est la première fois que je remplis une salle à Marseille, avec cette intensité. Et je suis prêt à recommencer demain matin. Je pense que la communauté a réagi d'une manière exceptionnelle. Je suis pas sûr que les dirigeants communautaires aient été au niveau. Il y a des gens qui sont qui sont apparus. Il est avec nous, il est revenu avec nous. Il y a quelqu'un comme Franck Tapiro qui est venu au premier voyage, qui a été vraiment choqué par le voyage parce qu'il a vu. Et dans l'avion, je l'ai vu écrire. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je réfléchis, laisse-moi. Et en fait, depuis 2 mois, il fait que ça. Avec Franck Zibi qui est là, ils font que ça. Que travailler pour la communauté, que travailler pour Israël. Et c'est des gens qui ont laissé tomber leur boulot aussi pour ça. C'est pas Tapiro, c'est pas n'importe qui. C'est sur le plan publicitaire, c'est quelqu'un de très connu. Il a fait des campagnes électorales de dirigeants, etc. Mais je crois que ça a marqué beaucoup de gens. Ça a marqué beaucoup de gens. Et une autre chose que je voudrais dire, c'est que dans mes actions communautaires depuis quelques années, il y a une chose qui m'énervait, c'est qu'il y avait des vieux. Et c'est la première fois que je vois les jeunes se mobiliser. J'ai vu ma salle à Paris le lundi soir. J'ai levé les yeux, j'ai regardé, il y avait des jeunes. C'est la première fois que je vois des jeunes venir à des associations communautaires. Et je crois que je vais mettre le paquet là-dessus. Je crois que c'est l'avenir, il est là. Et on va essayer de faire en sorte. Je crois qu'il y a une chose qu'on n'a pas fait, et ma génération n'a pas fait, c'est transmettre. Transmettre l'éducation sioniste, transmettre l'histoire du sionisme. Je promets que je vais travailler là-dessus dans les mois à venir. Voilà.
Alors là, en l'occurrence, effectivement, dès notre arrivée dans le bus, puisque à la sortie de l'aéroport, on a eu une guide déjà qui nous a parlé de cette atmosphère en Israël. Ça, c'est important de le rappeler, on est dans un pays en guerre. On s'attend à avoir 3 jours, nous, en tant que journalistes français, dans l'émotion, évidemment, parce qu'on va rencontrer des gens qui vivent au quotidien ce conflit, qui perdent des enfants, des parents, des proches. Mais moi, j'aimerais revenir à la mission du KKL. Est-ce que finalement, le KKL a vocation à organiser ce type de voyage pour sensibiliser les journalistes? Est-ce que finalement, aujourd'hui, on a besoin de ça pour sensibiliser des journalistes français?
Le KKL, c'est une grosse structure. C'est peut-être la dernière association sioniste d'envergure. C'est une association qui a les moyens en Israël, qui possède près de 40%, un peu plus de 30, entre 30 et 40% de la terre d'Israël. C'est une grosse machine. C'est une grosse machine d'habitude difficile à mouvoir. C'est-à-dire que quand je veux faire quelque chose, je me bats avec Jérusalem, une commission, deux commissions, un contrôleur, machin, etc. Et là, le KKL, du jour au lendemain, et c'est ma grande surprise, hein. J'ai reçu des instructions en me disant, voilà, on va faire ça. On va s'occuper des déplacés du Sud. On va monter et un ensemble de décisions qui ont été prises d'un coup. C'est-à-dire, la machine du KKL, qui est une énorme machine, s'est mise en route pour le pays. Et je vous dis, moi qui connais le KKL de l'intérieur, qui me bat avec eux d'habitude, quotidiennement, j'ai été très surpris. Ils ont été plus loin que ce que je voulais. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait pour les gens du Sud, c'est-à-dire leur transfert, s'occuper d'eux, l'accompagnement psychologique, les abris mobiles, puisque c'est une création du KKL, tout ce qui était autour, ils l'ont fait spontanément. Des ambulances pour le Sud, ils ont financé les communautés du Sud qui étaient exsangues. Donc, mais ça s'est fait du jour au lendemain et sans commission, sans contrôleur, sans machin. C'était plus le KKL que je connaissais.
Il y a une énergie finalement qui s'est dégagée de ces catastrophes du 7 octobre.
Je crois que c'est important. Et c'est un retour à l'origine. C'est-à-dire, je veux dire quelque chose qui va pas plaire. En fait, on a vu Israël progresser. On a vu Israël start-up. C'était la Californie, Israël. Mais on mangeait des sushis. Et d'un jour, ils se sont remis à manger des falafels. C'est-à-dire, ils se sont aperçus qu'ils étaient au Moyen-Orient et qu'il fallait vivre comme on vit au Moyen-Orient. Et ils mangent des falafels. C'est la nouvelle chose. C'est-à-dire, l'environnement autour d'Israël, c'est pas la Suisse. Donc, ils s'en sont aperçus. Et le KKL, comme le reste, hein, a réagi de manière différente. Avant, on parlait, on va recommencer, je suis sûr. J'espère que la paix va venir, qu'on va recommencer à travailler pour l'écologie, pour l'eau, pour la terre. Mais dans l'urgence, le KKL s'est transformé. Et je pense que, comme la société israélienne en général, et comme la société communautaire en général.
Voilà. Alors là, dans le programme que nous allons avoir ces 2 prochains jours, on va aller dans le nord, on va aller dans le sud. Qui sont ces interlocuteurs que nous, journalistes français, nous allons rencontrer? Comment vous les avez choisis, notamment par rapport à leur poste, j'imagine?
Alors, les journées sont particulières. Demain matin, on va partir dans le Nord. Donc, on va partir dans le Nord, voir, visiter un hôpital qui est particulier aussi, parce que il est plus en sous-sol qu'au-dessus. Il a été fait pour la guerre. En fait, pour la guerre dans le Nord, à Naharia, c'est un hôpital où tout est en sous-sol. Les salles d'opération sont en sous-sol, les salles de réa sont en sous-sol. Vous verrez demain, c'est quelque chose de particulier. Et on va rencontrer les gens de Naharia, les gens du Nord, et regarder, parce que vraisemblablement, le prochain problème d'Israël, ça sera le Nord. Donc on va essayer de voir si ce problème existe, si on a une chance d'avoir une solution politique, si le Hezbollah va se retirer au-delà du Litani, ou si c'est la guerre dans le Nord. C'est la question qu'on va poser demain.
Vous n'avez pas voulu tout focaliser sur Gaza, parce que c'est vrai qu'en France, on ne parle que de Gaza.
D'abord, c'est une guerre multifront, c'est pas une guerre locale. J'ai appris qu'aujourd'hui, il y avait trois Américains de morts en Jordanie. Donc, c'est une guerre générale. C'est plus un axe différent. Et je suis persuadé que on n'écoute pas assez les discours. J'ai beaucoup de reproches à faire à Netanyahou. Mais si je dois me rappeler Netanyahou sur quelque chose, le premier jour de la guerre, il a dit, ça va être long, ça va être terrible, mais il en sortira un Moyen-Orient redessiné. Et je crois qu'il avait raison. Il avait une vision que moi j'avais pas, et il faut écouter les gens. Donc c'est pour ça qu'on va dans le Nord. Et le soir, alors les soirées sont aussi importantes que les journées. Parce que demain soir, il y aura deux personnes qui vont venir nous voir. Un sécuritaire, haut de gamme. Je donne pas son nom parce que c'est pas la peine. C'est un patron d'un think tank sécuritaire d'importance en Israël. Et un journaliste qui s'appelle Amit Segal. Amit Segal, c'est un journaliste de la 12e chaîne de télévision israélienne. C'est lui qui sort tous les scoops. Donc il a des relais, je sais pas d'où il est sort, mais il a des relais exceptionnels. Et le lendemain, on aura aussi quelqu'un de très important, la Kiria, c'est-à-dire le Pentagone israélien, qui viendra nous parler. Et puis on aura Boaz Bismuth. Et Boaz Bismuth, je l'ai invité à la dernière minute parce qu'il rentre de Strasbourg. Il a été se battre à Strasbourg sur le... Boaz Bismuth est un francophone. J'aurais aimé qu'il soit notre ambassadeur en France. Il a refusé le poste parce qu'il est député Likoud et qu'il préférait rester, se battre sur le plan politique. C'est son choix. Mais il a des choses à nous apprendre. Et surtout à nous apprendre après son retour de Bruxelles. C'est aussi important. Voilà, donc Alors, le deuxième jour, on va aller dans le sud. On va faire comme ce qu'on avait fait la dernière fois. On va le recommencer, mais de manière un peu différente. On va faire les Sderot au Fakim, vraisemblablement. Et les kibbutz du sud, ça aussi c'est important. C'est important de se rappeler et d'avoir une vision. Je voudrais voir aussi, moi personnellement, ce que ça donne par rapport à la dernière fois, où j'avais trouvé des villes mortes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont retournés? Est-ce qu'il y a une chance qu'ils retournent bientôt sur place? C'est la question. La question qu'on pose, c'est quel est l'avenir? Quel est l'avenir pour les gens du sud? Quel est l'avenir pour les gens du nord? Quel est l'avenir pour l'État d'Israël? Et je pense qu'on va revenir avec, pas des réponses, mais avec des idées. Elles seront pas toutes les mêmes. Les gens vont nous donner des points de vue différents. Mais quand je réécoute, et vous pouvez les écouter d'ailleurs sur le site du KKL, je crois qu'elles y sont encore, le même type d'interview qu'on avait fait les autres fois, et ben, a posteriori, il y avait des choses à retenir.
Ce type de voyage, ça permet aussi de comprendre l'offensive israélienne, puisque Tsahal est aussi sous le feu des critiques de certains médias en France, mais aussi à l'international. On l'a vu aussi jugé par la Cour internationale de justice qui siège à l'AE. Peut-être qu'effectivement aussi, ce type de démarche, ce type de voyage, les rencontres que vous nous offrez, la possibilité de faire ici, donneront une certaine vision sur l'avenir, sur les perspectives qu'Israël veut pour son pays.
Moi, je crois que Tsahal est irréprochable. J'en suis persuadé. Et si j'ai des reproches à faire à la direction de l'armée, parce que elle a peut-être pas été au niveau avant le 6 octobre, l'armée d'Israël, c'est une armée fabuleuse. Les gens qui étaient dans l'armée, le directeur de l'éducation au KKL, je discutais avec lui de manière régulière parce que je voulais des gens pour l'éducation en France, etc. En fait, il était colonel dans les Sayeret Malkal. Quand il est venu à Paris la semaine dernière, j'ai appris qu'il était colonel. Il sortait de 2 mois et demi de Gaza. Et j'ai vu cet homme-là un peu marqué. Et la seule chose qu'il m'a dit, Je lui dis comment ça va, comment ça s'est passé, etc. Il me dit c'est dur, j'ai du mal à dormir la nuit. Et puis il a embrayé d'emblée, il m'a dit tu sais, on a beaucoup de travail. Je dis quoi? Il me dit tous ces enfants du Sud qui ont vécu sous les bombes, qui ont vécu dans les abris, ces adolescents, ils sont complètement déséquilibrés. Ils se droguent, ils boivent. Il me dit nous, il faut qu'on les remette sur le droit chemin. Cette génération, il faut pas qu'on perde une génération. Eh ben, je trouve ça extraordinaire que ce type-là qui est directeur du département d'éducation KKL, colonel à l'armée d'une unité d'élite, qui vient de sortir de 2 mois de Gaza, la seule idée qu'il a, c'est de savoir comment il va faire pour que la génération d'après soit, eh ben, je trouve ça, c'est ça, Tsahal. C'est ça, l'armée. La Tsahal, c'est une armée de gens de tous les jours. C'est pas une armée de métier. C'est ça, ce qu'il faut savoir. C'est le peuple. Donc moi j'ai rien à dire sur Tsahal. C'est une armée fabuleuse et tout ce qui se dit autour de Tsahal sur les, je m'en fous. En fait, je reste dans le. Alors ça c'est mon éducation sioniste. Ce qui est important, c'est pas ce que les autres y pensent, c'est ce que nous faisons nous. Et ça c'est pas moi qui l'ai dit. Je sais pas si c'est Golda ou Begin. Donc ça doit être le plus important, c'est ce que fait Tsahal. Voilà, c'est eux qui détiennent notre avenir, même notre avenir en diaspora.
Vous me l'avez un peu dit en début d'interview, mais est-ce que finalement ces rencontres vont nous permettre d'avoir une lisibilité sur la fin de ce conflit?
Oui, comme ils l'ont dit, ça va être long, douloureux, mais moi je reste optimiste parce que j'ai un caractère optimiste et je pense que de ce côté-là, j'ai raison. Je pense qu'il en sortira du bien. Il en sortira du bien pour la société israélienne, il en sortira du bien pour le peuple juif et pour la situation d'Israël dans les 50 prochaines années.
On aura à cœur en tout cas de faire partager aux auditeurs et aux auditrices de Radio JM toutes ces rencontres, tous ces reportages que vous pouvez suivre évidemment sur les réseaux sociaux à partir d'aujourd'hui évidemment et jusqu'à jeudi sur notre antenne. Merci beaucoup Robert Sbili, président du KKL France, d'avoir été avec nous pour nous présenter ce voyage très important pour les auditeurs à Marseille.
Ben vous me prenez au saut de l'avion, mais j'espère que vous serez aussi contente à la sortie.
Merci à vous. Chers auditeurs, pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et notre site internet radiojm.fr. Je vous dis à très vite sur notre antenne.
Retrouvez votre rendez-vous avec l'information, une édition spéciale Israël, présentée par Laura Saint.